Pour introduire la méditation de ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 2 Pierre, au chapitre 3. Nous lirons à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen.
Bonjour, frères et sœurs. Que le Seigneur bénisse ces instants où j'ai à cœur de vous présenter un message de la parole de Dieu. Dans le texte qui vient d'être lu, j'ai retenu trois verbes. Tarder, attendre et hâter. Tarder, attendre et hâter. Je m'imagine être un peu à la place de l'apôtre Pierre, qui se souvient de ces années passées avec Jésus, dans son intimité, dans cette amitié qui était née entre eux, particulièrement. Jésus les avait choisis, Pierre, Jacques et Jean, pour voir la transfiguration de sa personne. Et j'imagine que Pierre a dû garder à l'esprit cette image de Jésus montant au ciel, comme il a gardé aussi cette image de la transfiguration. Et il a dû se dire en lui-même, « Oh, Jésus a promis qu'il reviendrait, il ne va pas tarder à revenir, ce n'est pas possible, l'Empire romain est cruel, il y a des moments, des pays qui souffrent de persécution. » Et à cette époque-là, entre les disciples et entre les premiers chrétiens, d'ailleurs on se disait pour s'encourager, « Maranatha, le Seigneur vient !» Tous pensaient que Jésus allait revenir à leur époque. Et puis les années ont passé, les siècles ont passé, et voici que nous, adventistes, nous disons toujours aussi « Maranatha ». Nous croyons que le Seigneur va revenir. Depuis 1844, j'ai entendu mon grand-père, mon père prêcher sur ce sujet. Jésus n'est toujours pas là. Attendre est un des trois verbes qui sont donnés dans ce passage de l'apôtre Pierre. Une grande partie de notre vie se passe à attendre, n'est-ce pas? On attend le premier-né. On attend aussi les premiers pas de ce premier-né, de cet enfant. On attend la sortie de l'école, on attend les résultats scolaires. On attend le train, le bus. On attend le retour du mari au foyer. On attend quand on est malade, on attend le résultat des analyses. Récemment, je suis passé par un moment très douloureux. Et le médecin était si inquiet qu'il a demandé à ce que je sois amené d'urgence, aux urgences. Et puis les analyses n'ont rien trouvé. J'étais content à tel point que je ne voulais pas rester à l'hôpital, je voulais rentrer tout de suite. Du fait qu'il y avait les analyses, pourquoi attendre? Et que les analyses n'étaient pas négatives. Je me posais la question, mais quel mal a donc pris possession de mon corps? C'est pas possible. 8 jours ou 9 jours avec 39,5 degrés de fièvre, vous pouvez vous imaginer un peu l'affolement de mon épouse et du médecin. Et puis il y a aussi l'otage qui attend la délivrance. Le prisonnier qui attend sa libération. L'exilé qui souhaite pouvoir revenir un jour dans son pays. Et je pense, en parlant d'exilé, à ce jeune garçon, premier héritier et petit-fils du grand roi Saül, qui s'appelait Méphibosheth, dont j'ai écrit le récit, vous connaissez peut-être. Hein. Méphibosheth qui a dû attendre 20 ans avant d'être réhabilité. Il avait 5 ans lorsqu'il a été emmené en exil pour le protéger parce que le nouveau roi David risquait d'éliminer tous ceux qui faisaient partie de sa famille. 20 ans d'attente. Et enfin, la réhabilitation. Être à la table de David et des princes. Notre monde attend la fin de la crise. Tant d'espérances sont portées sur les grands de ce monde, sur les changements, changements de gouvernement, changements d'hommes. Et cependant, on se dit, des crises, il y en a eu à travers les siècles. Une de plus, on s'en sortira. Cependant, avec la mondialisation, les choses se compliquent. Les pays sont interdépendants. Si un pays comme la Grèce tombe, les autres pays risquent de souffrir. Il y aura de l'angoisse parmi les nations, dit Jésus. Et il y a de l'angoisse pour tous ceux qui perdent l'argent, leurs moyens, suite à des catastrophes. Il y aura de l'angoisse. Le tableau que brosse Jésus dans Matthieu 24 est certainement plus terrible encore que celui que dresse l'apôtre Pierre et même l'apôtre Paul. Et on peut dire que de nos jours, les écologistes, les scientifiques crient au secours. Au secours, la Terre. Nous sommes en train de nous détruire. La Terre semble elle-même se révolter de toutes parts. Les hommes se lamentent, il n'y a plus de saison. Et regardez les catastrophes, des villages entiers détruits, des villes détruites par des tremblements de terre ou par des tsunamis. Vous connaissez cela tous les jours, on voit ces souffrances, on voit ces malheurs. Paul écrivait aux chrétiens de Rome, si vous voulez prendre le texte, de Romains 8, versets 18 à 19, aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. C'est sûr, il y a une relation très étroite entre la nature et l'homme. Nous avons besoin de la nature. La nature a besoin de l'homme pour gérer tout ce qu'elle peut produire. Le deuxième verbe, c'est « ne tarde pas ». Le Seigneur ne tarde pas. Mais à la longue, nous devenons impatients. Et la patience n'est plus tellement un fruit quotidien. Nous-mêmes, nous sommes si souvent impatients. Il y a des lois qui obligent à être patient. Si par exemple vous passez un hiver qui est mauvais, eh bien il y a des conséquences, bien entendu. Mais vous vous dites, quand reverrons-nous le soleil? Quand est-ce que les fleurs réapparaîtront? Quand est-ce que nous verrons l'apparition de fleurs, d'arbres fruitiers fleuris? Il y a un cri qui est poussé par les justes. On trouve ce cri dans le livre de l'Apocalypse. Jusque à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur, tardes-tu à juger ? Un jour, un papa était un peu surpris de voir sa fille adolescente qui était troublée et qui avait les larmes aux yeux. Alors, avant de s'endormir, il la prend dans sa chambre, il dit « Ma grande fille, il y a quelque chose qui ne va pas. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas ?» Et au milieu de ses larmes, elle dit « Eh bien, tu sais, j'ai un petit ami et il a absolument voulu me donner un baiser. » Ah, et alors au milieu des sanglots, elle dit « Et puis il a voulu aller plus loin et je me suis reculé et je l'ai giflé. » Et c'est pourtant un bon petit ami. Et le papa a dit, eh bien, tu as bien fait, tu t'es défendu, mais je vais te raconter une histoire. Un jour, un garçon a vu un magnifique jardin, et le jardinier aimait particulièrement les roses. Et ce garçon s'est dit, ah, si je pouvais voir ces roses, il a passé le mur. Il est allé voir ces roses, elles étaient encore en bouton. Alors, il s'est dit, c'est un peu dommage. Il y a des roses jaunes, des roses bleues, des roses rouges, des roses différentes couleurs, mais elles sont en bouton et je n'arrive pas à voir quelle est la couleur et quelle est la plus belle. Alors ce garçon s'est mis à prendre une rose dans sa main et puis à ouvrir le bouton, tout doucement. Et puis il se dit, oh, j'arrive pas, peut-être que demain, maintenant que je l'ai aidé à s'ouvrir, demain je verrai vraiment ce qu'est cette rose. Et quand il est repassé le lendemain, la rose était ouverte, mais toute froissée. Alors il s'est dit, eh bien, je vais voir peut-être une autre. Et ainsi ce garçon s'est mis à déflorer plusieurs de ces roses, avec toujours le même désappointement. Et la jeune fille a compris, elle dit « Papa, j'ai compris. » Il est important d'être patient et de se dire « Il y a un temps pour chaque chose. » Chaque chose a son temps. De nos jours, on veut tout avoir, tout de suite, et maintenant, ici et maintenant. On consomme et l'on se consume. On veut jouir de la vie et on veut même une jeunesse éternelle. Combien de médicaments, de traitements sont faits pour cela? Et on y croit. On veut le paradis sur la terre et on pense que si tout le monde devient écologiste, on pense qu'on arrivera à empêcher la terre de se corrompre. Mais l'apôtre Pierre dit... Ils veulent ignorer, ils ne veulent pas savoir. Ils veulent ignorer qu'autrefois il y a eu un déluge et que le monde a été refait après le déluge. Le Seigneur ne tarde pas à venir, dit l'apôtre Pierre, la planète sera embrasée, sera détruite. J'ai réfléchi à cette notion d'attente et je me suis dit, voyons, le premier homme, Adam, a vécu combien d'années ? 930 ans. Pourtant, il était persuadé que ce que Dieu lui avait dit, qu'il y aurait la victoire, que le serpent serait détruit, il était persuadé que ça allait se faire. Peut-être a-t-il pensé même que ce serait son fils qui serait le sauveur. Eh bien, il a fallu 4000 ans pour que Jésus vienne. Et viennent en tant que sauveur de l'humanité. On pourrait parler des patriarches qui ont compté sur les promesses de Dieu, qui ont attendu. Daniel, à qui l'ange Gabriel a parlé, a donné des périodes prophétiques. Daniel, qui était effrayé de voir cette petite corne sur cette bête immonde. Daniel, qui devait se dire, mais enfin, comment est-ce possible ? La terre, le peuple d'Israël, va-t-il être détruit ? Daniel, qui était préoccupé par le temple qui était abandonné, par Jérusalem qui était abandonnée, qui a été détruite, et qui va passer du temps à Babylone et puis en Perse. Et j'imagine que chaque année, combien de fois il a dû se dire, mais quand est-ce que nous serons délivrés? Quand est-ce que le sanctuaire sera rétabli? Que Jérusalem sera de nouveau notre capitale, notre centre où nous pouvons rencontrer Dieu? Eh bien, l'ange Gabriel lui a dit, 2300 années. 2300 années. Et sur ces 2300 années, tu dois retirer 490 ans. Jusqu'à la venue du Messie, de loin, qui va apporter le salut. Alors, ça ne sera pas de mon vivant. Daniel se pose la question, mais pourquoi si longtemps, 2300 ans? Et puis voilà que Jésus vient. Combien attendait vraiment Jésus? Ah, il y avait Anne, il y avait Siméon, qui dans le temple ont reconnu l'enfant comme étant le sauveur. Et puis finalement, grâce à Jean-Baptiste qui prêchait, un groupe s'est formé, quelques-uns ont cru. Et voilà que parmi ces quelques-uns, donc Jésus se choisit des disciples, et parmi ses disciples, Pierre et Jean. Jean qui va vivre le plus longtemps, qui va être exilé après avoir été missionnaire en Asie mineure. On va l'envoyer à Patmos. Et là, Jésus se révèle. Et nous connaissons ce livre qui est la révélation de Jésus et de l'avenir, ce livre qui est l'Apocalypse. Et Jean encore se pose la question, mais si nous sommes persécutés, ça veut dire que nous sommes à la fin. Si Jérusalem a été prise par les Romains après des semaines de combat et de résistance, ça veut dire que nous sommes à la fin. Et Jésus lui dit, par un ange, qu'il faudra attendre 1260 années. 1260 années. Et il se rappelle ce que Daniel lui avait écrit, avait reçu comme message, 2300 ans. Il pensait que c'était la fin des 2300 ans, mais en calculant, il s'est rendu compte que non, ce n'était pas possible. Il faudra encore attendre 1260 années. Et puis, si on fait le calcul des 490 ans moins 2300, on arrive à 1810. Et 1810 ans, depuis le début de l'ère chrétienne, on arrive à 1844. Ah, voilà. Voilà que des hommes, des chrétiens, se sont mis à étudier les prophéties. Passionné par les prophéties. Le fameux collège Oberlin aux États-Unis était rempli de jeunes qui avaient décidé de laisser le tabac, de laisser l'alcool, parce que Jésus va revenir. Il faut être prêt pour le retour de Jésus. Il faut abandonner tout cela. Et puis, ce fut la grande déception. Pourtant, des hommes, des femmes s'étaient habillés même en blanc, étaient montés sur les toits, pensant que Jésus allait les prendre, que Jésus allait revenir. Ainsi est né le mouvement adventiste. Et depuis, on peut se poser la question, où en sommes-nous dans notre patience et dans notre espérance? Désirons-nous ardemment le retour de Jésus? Car le verbe « hâter » a le sens de désirer ardemment, ou s'empressant et désirant ardemment. Ce n'est pas du tout ce que l'on pensait pendant des années. Il faut hâter le retour de Christ, donc il faut faire beaucoup de travail missionnaire. Donc il faut aller vraiment de porte à porte, il faut beaucoup faire. Alors que souvent, les prédicateurs disaient, il faut d'abord être. Soyons patients. Soyons désireux de revoir le retour de Jésus et désireux dans notre famille, désireux avec les nôtres. Jésus avait donné des signes de la fin. Et certainement que beaucoup, à travers les siècles, ont vu ces signes de la fin. Mais ils n'étaient jamais tous ensemble, regroupés. J'avais eu l'occasion de voir un directeur d'observatoire à Nice. Et je lui ai dit que j'étais chrétien. Elle a dit, oh, moi je suis catholique, je suis chrétien aussi. Et je lui ai dit que j'étudiais justement les prophéties et qu'il était fait mention du retour du Christ. Et elle a dit, oui, je connais. On peut se voir, oui. Donc je suis monté à l'observatoire et on a eu un échange extraordinaire. Cet homme qui observait donc les étoiles, les planètes, me disait, effectivement, il y a une constellation Orion qui est comme un tunnel. Et ça me rappelait ce que Madame White disait au sujet de cette constellation. Et il me disait, vous savez, un jour, nous étions avec d'autres savants venant de tout pays. Nous étions sur un bateau et on nous a indiqué que du côté de la Nouvelle-Guinée, là où les vagues peuvent être très, très, très hautes, eh bien, on peut, à un moment donné, voir les astres et se rendre compte d'une façon plus précise. Mais on va vivre quelque chose de très, très intense ensemble. On va voir une... Le mot m'échappe, peu importe. Et c'est à ce moment-là précis, quand on est au haut de la vague, qu'il faut prendre des photos. Et ceci s'est passé, effectivement, tout était là. Et attendait le moment de l'éclipse, voilà le mot m'est revenu, et au moment où ils étaient en haut de la vague, ils ont pris des photos, et il m'a dit, vous ne me croiriez pas, mais tous ces hommes, tous ces savants, ont dit, merci mon Dieu. Et pourtant, beaucoup étaient incrédules. Un jour, alors que Jésus était avec ses disciples, il regardait en contrebas un village. Et à ce village, il y avait des jeunes filles, qui étaient un groupe de jeunes filles qui étaient sur la place du village et qui étaient là, avec leurs lampes allumées. Elles étaient toutes habillées en blanc et elles avaient toutes une lampe. J'en ai récupéré une ici, je ne sais pas si vous pouvez la voir, elle n'est pas très grande, on la tient comme ça. On met une mèche, on met de l'huile d'olive dedans. Je l'ai essayé, ça marche très bien. C'est une lampe que j'ai acquise lors d'une expédition en Israël. Et en Israël, j'ai eu l'occasion de voir un centre archéologique. Et il y avait quantité de ces petites lampes. Et un archéologue m'a offert donc cette lampe. J'ai dit, mais elles sont petites. Il m'a dit, oui, mais ce qui est important, c'est que chacun... et sa lampe, et rentre dans la maison avec sa lampe. Et dans la maison, il y a des niches où chacun peut mettre sa lampe, ce qui éclaire très, très, très fort toute la maison, toute la pièce. Ah, j'ai compris. Plus on est nombreux, avec sa petite lumière, plus on apporte de lumière. Et ces jeunes filles avaient toutes leurs lampes, vous connaissez l'histoire, et le temps passait, le cortège de l'ami avec l'époux ne passait toujours pas. Dans une maison un peu plus loin, on préparait la fête. Le futur marié et ses amis étaient partis chercher la fiancée. Et ils devaient passer. Les jeunes filles s'étaient assoupies. Toutes assoupies. Et tout d'un coup, la voix forte de l'ami de l'époux se fit entendre. Et toutes se redressèrent, défroissèrent leurs robes, regardèrent s'il y avait assez d'huile dans la lampe, et cinq, tout d'un coup, furent affolées. Je n'ai pas assez d'huile. Ma réserve, je n'ai pas pensé à la réserve. Elles ont discuté avec les cinq autres. Ah non, pas question. Allez chez le marchand, allez trouver, allez chercher votre huile. Arrivés à la porte, ces cinq qui étaient allés chercher la réserve d'huile se sont trouvés devant une porte fermée. Et le maître de cérémonie, parce qu'elles ont frappé, le maître de cérémonie leur a dit « Non, pas possible, c'est trop tard. » Ces vierges, nous dit Madame White dans son beau livre « Jésus-Christ », représentent l'Église au temps de la seconde venue de Jésus. Les lampes représentent la parole de Dieu et l'huile, le Saint-Esprit. Une question se pose alors à nous. Avons-nous le Saint-Esprit qui nous aide chaque jour à changer notre caractère? Ce Saint-Esprit qui nous donne la joie de vivre dans un monde sans espérance. Ce Saint-Esprit qui nous pousse à toujours mieux comprendre la parole de Dieu. Dans le Proverbe chapitre 13, verset 9, il est écrit « La vie des justes est comme une flamme qui danse, joyeuse et répand sa clarté. Mais la lampe des méchants s'éteint parce qu'elle n'a pas d'espérance. » Ce serait terrible, n'est-ce pas, que l'un ou plusieurs d'entre nous, nous soyons comme ces vierges à la porte, entendant la voix de Jésus qui dit « Retirez-vous, je ne vous connais pas. » Cette parabole des 10 vierges fait partie des deux autres paraboles qui suivent le texte de Matthieu 24 où Jésus donne tous les signes de la fin. Il y a cette parabole où les justes ont dit « Mais Seigneur, tu nous accueilles, tu as mis les brebis à ta droite et les boucs à ta gauche, mais Seigneur, dis-nous, qu'avons-nous fait pour cela ?» Et Jésus leur dit, « Chaque fois que vous avez fait ceci à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et d'autres ont dit, « Mais nous nous avons fait aussi du bien. Nous avons donné à manger, nous avons apporté à boire, nous avons recouvert les malheureux. Je ne vous connais pas. » Terrible, phrase terrible. Savoir attendre, c'est d'abord un état d'esprit. C'est une conduite. Quand je prends le texte de l'apôtre Pierre, je me rends compte que hâter l'avènement, ce n'est pas faire quantité de choses. Mais hâter l'avènement, c'est désirer vraiment. Et quand on désire revoir quelqu'un, on met tout en œuvre pour que cette personne soit heureuse quand on la reçoit. Savoir attendre, c'est une conduite. Quelle ne devez-vous pas être par votre conduite ? Impliquez-vous à être trouvé par lui, etc. C'est toute une conduite de tous les jours. C'est un état d'esprit, c'est une mentalité, c'est l'Esprit de Dieu qui nous transforme et qui fait que nous pouvons vraiment nous préparer, être prêts pour le retour de Jésus. C'est une préparation quotidienne. Par ma vie, je dois révéler Dieu. Par la vie de mon foyer, je dois révéler Dieu. Je dois révéler la lumière. J'aspire aux noces de l'agneau. Est-ce que nous aspirons tous aux noces de l'agneau? À la chute de Pearl Harbor, à la fin de la guerre, enfin plus pendant la guerre, les Japonais ont pris tous ces soldats américains et leur ont fait subir des atrocités dans les prisons, comme s'ils voulaient se venger. Et le général MacArthur, qui était à Pearl Harbor, leur a dit avant de partir, « Je reviendrai. » Et ces soldats ont subi toutes les exactions, toutes les souffrances, en pensant, « MacArthur va revenir, notre général va revenir. » Et il est revenu les délivrer. À plus forte raison, Jésus, qui nous dit « Je reviendrai », tiendra parole. Il tiendra parole, c'est bien, mais nous aussi, nous devons pouvoir non seulement compter sur lui, et lui doit pouvoir compter sur nous. C'est très important. Pourquoi ? Parce que c'est une lutte, c'est un combat entre Lucifer et ses anges, et tous les anges de Dieu et le peuple de Dieu. Et Jésus, pour avoir sa victoire, sa pleine victoire, a besoin de chacun d'entre nous à ses côtés, dans le ciel. Que le Seigneur nous aide afin que Jésus puisse compter sur nous pour sa victoire. Soyons patients, attendons et désirons ardemment le retour de Jésus. C'est ma prière. Amen.